Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. L'actualité de l'Église de cette édition sera notamment marquée par le compte-rendu des activités du pape de la semaine. Le Saint-Père qui effectuera dimanche 7 juillet une visite à Trieste, capitale de la région autonome de Frioul-Vénétie-Julienne au nord-est de l'Italie, où il conclura la 50e semaine sociale des catholiques italiens. Nous y reviendrons donc avant de nous rendre au Kenya. Après l'actualité sociopolitique africaine et la méditation avec les lectures du 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous accorderons la parole à notre invité du jour, Mgr Raphaël Bala Guilavogui, le président de la Conférence épiscopale de Guinée, qui, ensemble avec les autres évêques guinéens, invite les autorités à clarifier d'urgence le calendrier de la transition en cours dans le pays, qui semble prendre plus de temps que prévu. Ce sera tout pour les titres. Les détails, dans un instant, dans cette édition.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Ouvrons l'actualité de l'Église de cette édition par la semaine du pape, le compte-rendu des activités du Saint-Père de cette semaine. Parole à Françoise Niamia.
Tout d'abord, Christian, rappelons que depuis le 2 juillet, le pape est en vacances jusqu'au 7 août prochain. Toutefois, la salle de presse du Saint-Siège a rendu public vendredi le programme de son prochain voyage apostolique en Asie et en Océanie. Du 2 au 13 septembre, le Saint-Père se rendra en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental et à Singapour. Toujours vendredi, le pape a répondu à une lettre des participants à une rencontre diocésaine de Iaizi en Roumanie, invitant les jeunes à transmettre des valeurs édifiantes sur Internet avec courage et créativité, mais en évitant de devenir esclaves du téléphone portable et en regardant leurs frères et sœurs dans les yeux. Mercredi 3 juillet, le Saint-Père a érigé le diocèse de Bentiu au Sud-Soudan, dont le territoire a été démembré du diocèse de Malakal, le rendant suffragant de l'archidiocèse métropolitain de Juba. Il a en même temps nommé son premier évêque, Mgr Christian Kalasare, membre de l'Institut des missionnaires comboniens du Cœur de Jésus. Jusqu'à sa nomination, il était évêque de Rumbek. Dans son intention mensuelle de prière pour ce mois de juillet, rendue publique mardi, le pape François demande de prier pour les malades et en particulier pour que le sacrement de l'onction des malades donne aux personnes qui le reçoivent ainsi qu'à leurs proches la force du Seigneur et devienne de plus en plus pour tous un signe visible de compassion et d'espérance. Terminant, lundi 1er juillet, le pape a présidé un consistoire ordinaire public au Vatican, en présence de 30 cardinaux au cours duquel il a annoncé la canonisation du 14 bienheureux le 20 octobre prochain en pleine session synodale.
Merci Françoise. Nous rappelons aussi que le Saint-Père effectuera dimanche 7 juillet une visite à Trieste, capitale de la région autonome de Frioul-Vénétie-Julienne, au nord-est de l'Italie, où il conclura la 50e semaine sociale des catholiques italiens. Pour la troisième semaine consécutive, les rues du Kenya sont envahies par des manifestants. Les autorités, en dénonçant l'infiltration du mouvement par des criminels, ont intensifié la répression. L'évêque auxiliaire de Nairobi, Mgr Wallace Nganga, a reconnu pour sa part que les jeunes ont le droit de protester et a appelé le gouvernement à écouter leurs griefs, tout en exhortant les jeunes à éviter la violence. Les précisions de notre correspondant à Nairobi, Camille Mukoso.
Le président kényan William Ruto a cédé mercredi dernier aux demandes de jeunes manifestants en retirant le projet de budget qui incluait de nombreuses taxes impopulaires. Cependant, la situation reste tendue. Dans le centre de Nairobi, les forces de l'ordre ont tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes sur de petits groupes de manifestants qui lançaient des pierres. Selon les Kenyan National Human Rights Commission, 22 personnes ont été tuées, dont 19 à Nairobi et plus de 300 ont été blessées. Les manifestations ne se sont pas limitées à Nairobi. Des rassemblements ont également eu lieu dans le bastion de l'opposition à Mombasa, à l'est du pays, et à Kisumu, à l'ouest, attirant plusieurs centaines de personnes. Mgr Wallace Nganga, évêque auxiliaire de Nairobi, a reconnu que les jeunes ont le droit de protester et a appelé le gouvernement à écouter leurs griefs. En même temps, il a exhorté les jeunes à éviter la violence.
Avec les arguments qu'ils avancent, ils ont une raison légitime de protester. Nous devons les écouter. J'exhorte également le gouvernement à prêter attention à ces jeunes. Cependant, je leur demande d'éviter la violence. Ils doivent aussi considérer ce qui peut nous unir en tant que nation et éviter que des intérêts personnels ne déforment la bonne intention qu'ils avaient en descendant dans la rue.
Alors que les Kenyans traversent une période de vives tensions, le retrait du projet de budget par le président Ruto semble être un signe de prise en compte des revendications de manifestants. Toutefois, la répression violente continue de susciter des inquiétudes quant à l'avenir de la stabilité dans le pays. Depuis Nairobi, Camille Mokoso pour Radio Vatican.
Faisons place à présent à l'actualité sociopolitique africaine. Les avocats du président nigérien Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État le 26 juillet 2023 et détenu depuis par les militaires au pouvoir, ont demandé une nouvelle fois à la CEDEAO d'exiger sa libération 2 jours avant un sommet de l'organisation ouest-africaine. Le collectif international des avocats du président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, demande instamment au chef d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, d'exiger la libération immédiate du président et de son épouse Adiza à la veille du sommet de l'organisation qui se tiendra dimanche à Abuja, a-t-il écrit vendredi dans un communiqué. Un dirigeant de l'État régional de l'Amara, théâtre d'une insurrection armée depuis plus d'un an, a été tué par balle par des entités extrémistes, a annoncé vendredi le média officiel de la région, utilisant le vocable désignant les milices Fano. Les Fano, milices populaires d'autodéfense de la communauté Amara, la deuxième en nombre des quelques 80 communautés ethno-linguistiques que compte l'Éthiopie, ont pris les armes en avril 2023 contre le gouvernement fédéral et les autorités régionales. Le père jésuite Fulgence Tieni nous introduit à la méditation avec les lectures du 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B.
Nous avons sans doute l'expérience d'avoir séjourné à plusieurs endroits dont certains nous sont devenus familiers, d'autres demeurent étrangers, certains sont accueillants, mais d'autres inhospitaliers. Une des plus difficiles expériences est celle d'être reçu comme un étranger chez soi ou de ne pas être accueilli du tout. Mais certains parmi nous sont très chanceux de provenir d'un peuple toujours accueillant. Il y en a aussi beaucoup parmi nous qui sont loin de cette expérience de retour chez soi. Ils ont oublié le chemin qui mène chez eux et ils ne communiquent même plus avec les leurs qu'ils ont quittés depuis quelque temps. Mais Jésus, dans l'Évangile, retourne chez lui et se retrouve avec les siens le jour du sabbat où tous se réunissent pour écouter la parole de Dieu. Il a une bonne nouvelle pour eux, mais malheureusement, ils ne sont pas prêts à l'accueillir. Il n'y a aucune garantie que nos frères, nos sœurs, nos amis, nos proches accueillent la parole de Dieu que nous leur partageons, les conseils que nous leur prodiguons. En revanche, cela n'est pas non plus une raison pour mettre un terme à notre mission de répandre la bonne nouvelle. Les prophètes avant le Christ ont été pourchassés, voire maltraités. Paul et Barnabé, après lui, ont aussi subi la résistance de leur peuple au point de se tourner vers les païens. Il est possible de faire face à l'indifférence chez soi. Nous devrions être reconnaissants d'être bien accueillis, même chez nous. De par notre baptême, nous sommes des prophètes, porteurs des messages du Seigneur à diffuser dans la société. La bonne nouvelle à apporter aux autres n'est pas seulement de l'ordre des discours, elle est aussi de l'ordre des œuvres. Il est bon d'exhorter les autres à la paix, à l'honnêteté, à prendre soin de l'environnement, à s'entraider. Mais cela ne suffit pas. Il y a aussi des malades, des plus pauvres que nous, et des initiatives de changement à prendre. Si nous ne pouvons pas imposer les mains pour guérir les malades aussitôt, nous pouvons certainement leur rendre visite, les écouter, prier avec eux et partager le peu que notre pauvreté et générosité nous permettent. Voilà être un prophète dans la société aujourd'hui. Inviter au bien et faire du bien. Ni l'un ni l'autre n'est facile. Certains de nos frères, sœurs, amis, proches ne nous laisseront pas leur faire du bien. Ces obstacles sont une occasion pour nous d'échapper à l'orgueil du succès facile, de nous recommander à Dieu le Père, de demander la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la force de l'Esprit d'amour. Par ailleurs, chacun de nous est aussi le village de Jésus-Christ. Dans ma vie, dans la tienne, le Seigneur vient chaque fois avec une bonne nouvelle, avec des bienfaits comme autrefois dans son village. Mais très souvent, nous sommes durs d'oreilles et de cœur. Nous ne voulons pas l'écouter quand il nous demande de lâcher prise, de céder le pas à l'autre, de nous réjouir du succès de l'autre, d'attendre notre tour selon son plan pour nous. Quand la parole de Dieu, la prédication, les conseils contredisent nos intentions et nos ambitions, comment réagissons-nous? N'oublions pas qu'il y a un prophète parmi les gens qui nous parlent. Il y a un prophète dans cette parole entendue qui retentit en moi.
La transition en cours en Guinée semble prendre plus de temps que prévu. Les évêques guinéens invitent les autorités à clarifier d'urgence le calendrier de la transition avec son programme, sa stratégie et ses objectifs. Entre-temps, le pays reste toujours dirigé par des militaires à la suite d'un coup d'État mené le 5 septembre 2021. Dans un communiqué officiel daté du 3 mai dernier et parvenu vendredi aux médias du Vatican, l'Église catholique dresse un tableau sombre de la situation actuelle dans le pays. Insécurité, pénurie d'électricité et d'eau courante, cherté de la vie, arrestations arbitraires sont entre autres les difficultés que traversent les populations depuis maintenant des mois. Le président de la Conférence épiscopale de Guinée, Mgr Raphaël Bala Guilavogui, ne cache pas son inquiétude. Il revient sur la situation qui prévaut actuellement dans le pays.
Actuellement, nous constatons qu'il y a eu des avancées, il y a eu des travaux, par exemple les routes, mais il y a quand même pas mal de questions que nous nous posons, à savoir l'insécurité. Il y a quelquefois des arrestations, des emprisonnements. Cela inquiète beaucoup la population. Il y a aussi le problème de l'électricité qui se pose, où à Conakry notamment, il y a beaucoup de délestage. On se demande pourquoi, alors que on pensait que c'était déjà une époque révolue. Il y a un vrai problème.
Un autre problème qui crée les tensions, c'est bien évidemment la fin de la transition qui semble ne pas être très claire.
Dans notre message, nous avons posé le problème en disant que nous avons besoin de cela. Même si on nous dit que la transition, ça ne peut pas prendre fin cette année. On est d'accord. Mais il faut qu'on sache quand est-ce que ça va prendre fin. Sinon, nous nous sommes vraiment inquiets parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Et par conséquent, les partis politiques disent que ils vont commencer à faire des manifestations parce que théoriquement, c'est à la fin de cette année, en décembre, qu'on devait faire des élections présidentielles. Par contre, on est en train de voir que ce sera probablement le référendum pour voter la nouvelle constitution. Mais la nouvelle constitution, je ne sais pas si elle est complètement rédigée.
Présenter un projet de constitution pourrait-il apaiser aujourd'hui les tensions avec l'opposition qui, elle, accuse la junte de vouloir confisquer le pouvoir?
Si vraiment une nouvelle constitution est présentée et que les uns et les autres l'apprécient avant de passer au référendum, je pense que ça pourrait apaiser. Il s'agit d'être clair et sincère avec la population. Voilà. Nous savons que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais au moins qu'on sache que telle période, ça sera possible de voter la Constitution et à telle autre période, voter la présidentielle.
Quelle est l'implication de l'Église pour aider à favoriser le dialogue?
Bon, l'Église a toujours été disponible, hein, mais cela suppose que les autorités puissent impliquer l'Église. Voilà, mais ce qui n'est pas le cas. On attend souvent qu'il y ait la tension pour faire recours à l'Église, aux religieux, notamment à l'archevêque et au grand imam de Conakry, pour aller apaiser. Alors, ça ne peut pas aller. Je pense qu'il faut une dynamique d'implication de l'Église.
Interrogé par Myriam Sonduno, le président de la Conférence épiscopale de Guinée, Mgr Raphaël Bala Guilavogui, était notre invité du jour.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambé qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Bonne fin de semaine à tous et restez branchés sur nos programmes.